Le retour.
And I don't like it at all, okay?
De Radio X.
Okay?
En vacances.
I don't like it at all.
Radio X.
Écoutez le retour de Radio X en vacances, 16h12, c'est Jordan, Mel et Louis qui vous accompagnent jusqu'à 18h ce soir. N'hésitez pas à nous texter, merci d'être là, 418-670-9098. Hey, c'est notre rendez-vous estival, on se fait toujours ça une fois ou deux dans l'été, bien content d'aller lui jaser. Il y en a qui disent « super infirmière », mais son vrai titre, c'est infirmière praticienne spécialisée, travaille au GMF de Saint-Étienne. Julie Poirier qui est avec nous, salut Julie!
Salut, j'espère que vous allez bien.
Mais oui, est-ce que ton titre, c'est comme ça qu'on le dit?
Oui, tu le dis bien, infirmière praticienne spécialisée en première ligne.
En première ligne aussi. Bon, hey, premièrement, GMF, on peut désigner ça comme une genre de super clinique, GMF Accès Réseau. Ce type de clinique-là, ça permet entre autres de désengorger le réseau. Puis là, ben, bonne nouvelle, ça va prendre de l'expansion dans les prochaines années. Je sais que sur la Rive-Sud, en tout cas, il y en a une qui va ouvrir dans le secteur Saint-Romuald. Parle-nous un peu de ce type de clinique-là dans lequel tu travailles. Ça fait combien de temps que ça existe à peu près au Québec?
Ben en fait, le gouvernement avait annoncé une bonne nouvelle en 2024, là, puis d'ici 2028, de mémoire, il est supposé avoir à peu près 23 cliniques IPS. Là, fait que les gens, quand ils vont vouloir, il n'y a pas juste dans les cliniques IPS qui peuvent consulter une IPS, mais clairement, là, il y en a. En fait, ce qui est innovant ou intéressant avec la clinique IPS, c'est vraiment... Bien, c'est sûr qu'on peut voir des infirmières praticiennes, mais c'est vraiment qu'ils travaillent en équipe avec des équipes de professionnels là, pour offrir des soins de santé complets, que je dirais près de chez vous, parce que les cliniques IPS sont toutes proches de la communauté. Puis le but, c'est d'évaluer l'état de santé, poser oui, des diagnostics, prescrire des médicaments, assurer le suivi des maladies chroniques, assurer le soin des enfants, adultes, personnes âgées, fait que toucher un peu à toute la clientèle. Mais... ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle travaille pas toute seule, l'IPS. Elle travaille toute avec une équipe de travailleurs sociaux, nutritionnistes, pharmaciens, médecins aux besoins, infirmières cliniciennes. Je suis en train de les oublier, mes chers collègues. Fait que c'est ça, c'est toute une équipe qui est autour pour voir différents problèmes ponctuels et différentes maladies chroniques.
Puis est-ce que ça a des effets sur la congestion, la capacité des urgences? Parce qu'année après année, les urgences débordent. Je sais pas, ça ressemble à quoi pour cet été, mais est-ce que... de fil en aiguille, vous pouvez calculer qu'avec l'ouverture de ce type de clinique-là, ça peut aider un peu, du moins ça arrive sud dans le secteur que tu es, Julie.
Ben oui, c'est clair que les cliniques IPS donnent l'accès de plus parce que c'est des professionnels de plus qui sont dans un endroit un endroit proche de la population où souvent il y avait moins de services ou moins d'accessibilité. Fait que c'est clair que ces endroits-là, parce qu'il y a du rendez-vous, sont ouverts à des heures, à toutes les heures, je dirais, les heures ouvrables et les heures défavorables aussi, les week-ends, etc. Là, fait que c'est une belle accessibilité pour les gens. C'est clair que les gens sont en train de s'installer, là, je vais dire ça comme ça, c'est en train de se mettre en œuvre, mais clairement, c'est des cliniques qui vont donner de l'accès. Puis effectivement, en Chaudière-Appalaches, il y en a une qui est à Saint-Romuald, mais il y en a à Québec aussi. Donc, les gens vont certainement être appelés à aller dans ces cliniques-là pour rencontrer les professionnels.
Là, ça dit quoi dans les GMF, les soins de santé présentement? Est-ce que la demande est forte? Y a-t-il du monde malade un peu? Y a pas trop de souches de gastro qui se promènent?
Ben non, pas de gastro, je dirais pas ça, mais je dirais qu'il y a toujours des gens qui sont... probablement que les gens qui écoutent, ils disent « Ah oui, des fois, on essaie d'avoir accès, puis c'est difficile. » Je pense qu'il y en a à la longueur de l'année, il y a des gens qui ont des besoins au niveau de leur santé. Il y a toujours des problèmes de santé qui sont différents selon la période de l'année. On va sûrement en parler dans quelques minutes, là, des tiques ou bien des coups de chaleur, etc. Là. Mais il y a des besoins. C'est clair qu'il y a des... Là, on est moins dans les rhumes et les grippes, là, mais on est plus dans les petites infections de peau d'été ou des problèmes de maladies chroniques que les gens ont là, à longueur d'année. Là.
Puis si vous avez des questions pour Julie, ben, n'hésitez pas par texto 418-670-9098. On va prendre ça sur le fly pendant la discussion. Bien sûr, c'est pertinent. Premier sujet santé aujourd'hui, la chaleur extrême. On va commencer avec ça, Julie. Là. Ah, la chaleur! Là, on est passé de 18 avec un vent du nord-est à quoi 29-30 des derniers jours, dernières semaines. Puis là, on voyait ça passer sur les TVA de ce monde. L'avertissement de chaleur, installez-vous une aire climatisée, presque dangereux. À partir de quand la chaleur, ça devient vraiment problématique? Surtout pour monsieur, madame, tout le monde. Parce que si moindrement tu es en santé avec de l'eau, j'imagine que tu t'en sors pas si mal que ça dans des chaleurs accablantes qu'on vit peut-être 3-4 jours par année ou presque. Là.
Oui, ben, mais c'est sûr que c'est dur de répondre exactement dans le sens où ça dépend aussi de quel âge on a puis comment on est. On s'entend que notre corps, d'habitude, là, il est à 37 degrés Celsius. Là. D'habitude, il fonctionne bien à 37. Là. Mais quand il y a trop chaud, on a déjà pensé qu'on a déjà fait de la température, que notre température corporelle augmente puis qu'on se retrouve à 39 puis 40 de température, là, on n'est pas bien. Hein? Fait que quand il fait très chaud, on n'est pas bien. C'est sûr que les extrêmes d'âge, là, les enfants tolèrent vraiment moins bien la chaleur puis les personnes âgées aussi. Fait que tu sais, les personnes âgées qui sont dans une résidence pour personnes âgées puis qu'il n'y a pas d'air climatisé ces jours-ci, c'est extrêmement difficile, on s'entend. Fait que les personnes qui ont des maladies chroniques, tu sais, qui ont des problèmes respiratoires, tu sais, les maladies pulmonaires obstructives chroniques qu'on appelle là, les fameux MPOC ou des choses comme ça, c'est sûr qu'eux autres, ils trouvent ça difficile. Souvent, ils vont se sentir plus fatigués, étourdis, mal au cœur, mal à la tête. Fait que quand on a ça, ben faut essayer de prévenir ces choses-là. Fait que là, je vais dire aux gens qu'il faut qu'ils boivent de l'eau régulièrement. Pas juste la boisson, là. L'alcool, là, la bière, ça déshydrate.
Ça donne un faux sentiment
d'hydratation. Ouais, c'est bon, une petite bière, une fois de temps en temps, mais quand on est bien hydraté à la base, c'est important.
Je veux dire, comme mon collègue JC, quand t'en prends une, tu prends un verre d'eau, genre même quantité. Fait que comme ça, tu restes pas pire stable pendant ta veillée.
Puis même, c'est plus stable. Les
Bien, le point, c'était l'autre chose que j'allais ajouter, les boissons sucrées non plus. Il faut vraiment prendre de l'eau, là. Fait que des fois, les gens disent qu'ils n'aiment pas beaucoup l'eau, là, mais des fois, il y en a qui vont prendre plus de l'eau pétillante, là. Des fois, ça va. Mais tu sais, ou des tisanes froides, ou il y a des fruits, là, riches en eau qui sont quand même plus intéressants, comme le melon, la pastèque, là, mais, ou des légumes comme concombre, tomate, là, qui a vraiment plus d'eau à l'intérieur. Mais tu sais, normalement, il faut limiter les boissons sucrées, ou les grandes quantités de café ou de boissons énergisantes, là. Ça, c'est pas les meilleures choses pour s'hydrater. Puis, des fois, les gens se demandent, quand je sais pour savoir si je suis bien hydratée ou pas, bien, normalement, quand ils vont faire pipi, là, quand ils vont uriner, il faut que ça soit jaune pâle. Si ça sent bien foncé, puis ils disent d'habitude, je ne suis pas foncé de même, là, ou qu'ils vont uriner moins souvent, là, d'habitude, ça veut dire qu'ils sont moins bien hydratés, puis après, ils vont venir la bouche sèche. On n'est pas supposé d'attendre d'avoir extrêmement soif. Si on attend de sentir qu'on a vraiment besoin, ça veut dire que probablement qu'on ne s'est pas bien hydraté. Là, fait que quand on commence à être fatigué, étourdi, mal à la tête, urine foncée, ça, c'est moins bon, là, ça. Il faut aller s'hydrater.
Côté quantité, disons, pour un enfant qui peut pas vraiment nous dire, là, tu sais, on peut le voir dans la couche, évidemment, mais ce serait quoi les quantités idéales, là, au minimum, disons, là, pour un enfant et pour un adulte par jour?
Oui, bien, un adulte, d'habitude, ça tourne autour de 2 litres de liquide par jour, là. Fait que, tu sais, normalement, les gens devraient traîner leur gourde, là, souvent, c'est 1 litre, là, ou... Fait que 2 litres par jour, les hommes adultes, mettons, ceux qui travaillent à l'extérieur, là, on est plus à 2,5, 3 litres par jour. Puis là, les enfants, ça dépend de l'âge, là, mais clairement, faut qu'ils s'hydratent eux autres aussi. Faut penser leur offrir, parce que souvent, ils n'ont pas le réflexe de dire qu'ils ont soif puis qu'ils en ont besoin. Fait que surveiller la course, surveiller les... S'ils ont des larmes, s'ils pleurent, tu sais, s'ils pleurent puis ils n'ont pas de larmes, là, ça veut dire qu'ils sont sèches. La bouche est très sèche aussi, ou la peau est très sèche, là, ça, c'est ça veut dire que la personne est due pour être vraiment réhydratée.
Puis tu parles d'enfant. Moi, mon petit avec l'eau, c'est comme toujours un turn-off total. Les électrolytes, quelque chose peut faire la job. C'est les BCE. On peut penser à Gatorade. Gatorade, ils ont des G2 qui sont un peu moins sucrés. C'est-tu quelque chose qui
peut être pas... Oui, il y a quand même des électrolytes. Oui, c'est un stand-up. Puis tu sais, il existe comme des types pour hydrater. Un peu comme quand les gens ont la gastro, là, des Pédialyte. Là, puis même des fois, les enfants, quand ils ont moins le goût, là, ils les ont en popsicle. On peut les mettre au congélateur. Puis c'est un popsicle. Fait que les enfants trouvent ça intéressant. Là, fait que des fois, ça peut venir combler quand même un peu.
OK. Hey, t'entends-tu parler de piqûres de tic un peu plus qu'avant? Puis ça arrive quoi faire? Parce qu'on dirait que moi, ça arrive sud, on en entend un peu moins, mais j'ai entendu que dans le secteur de Portneuf, il y en avait un peu plus qu'il y en a déjà eu. Puis tu sais, quand t'as une piqûre, ça veut pas dire nécessairement que t'as la maladie de Lyme, mais ça reste que ça peut être un problème. Mais une piqûre de tic, faut pas que tu niaises avec ça.
Ouais, bien en fait, t'as raison de le signifier, puis il y a vraiment plus, les zones ont été élargies, là, comme en Chaudière-Appalaches, on a 51 régions là, qui ont des tics. À Québec aussi, il y a plusieurs zones qu'on n'avait pas les autres années que cette année on a. En fait, les gens, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que c'est pas tous les tics qui vont rendre les gens malades. Là. Puis plus longtemps la personne a sa tic sur elle, je vais dire ça comme ça, quand on dépasse particulièrement 24 heures, c'est que quand elle fait sa morsure puis qu'elle reste accrochée à la personne, là, bien, c'est une bactérie là, qui peut causer, qui est responsable de la maladie de Lyme. Quand elle est accrochée, bien là, elle met plusieurs heures à transmettre genre sa bactérie. C'est pour ça qu'on veut le retirer le plus vite possible. Puis en dedans de 24 heures, généralement, pour éviter d'avoir des complications puis de donner des antibiotiques pour prévenir d'avoir la maladie. Puis là, bien, peut-être que j'irai en premier avec les conseils parce que les gens, il faut qu'ils aillent se promener dehors, c'est bon, là, mais tu sais, normalement, quand tu sors d'être allé te promener où il y a des herbes hautes, tu es allé te promener en forêt, etc., devrait s'assurer de vérifier les endroits où les tiques ont plus tendance à s'accrocher, de vérifier qu'ils n'ont pas une petite tique d'accrocher en arrière des genoux, aux aines, nombril, cuir chevelu, derrière les oreilles.
C'est pas très gros, Julie, c'est aussi là, c'est une petite affaire là, qui va peut-être gonfler au fil du temps. Là,
ouais. Oui, c'est ça. Puis c'est petit, là, ça mesure à peu près 5 mm. Là. C'est pas très gros, sauf qu'on le voit bien sur la peau généralement. C'est quand les gens regardent ou qu'ils passent les mains pour être sûr de sentir, puis là, il faut l'enlever. Puis là, mais il faut faire attention. Il ne faut pas que les gens l'enlèvent n'importe comment. Là, ça sortir avec une pince, ça s'enlève avec une pince fine, mais parce que des fois, j'entends que les gens ont essayé de mettre de la vaseline, ils ont essayé de mettre des choses, de l'alcool, de verser des affaires. Il ne faut pas qu'ils fassent ça, là, parce qu'il faut vraiment l'enlever au complet, puis il faut enlever la tête. J'en ai encore eu dernièrement. Les gens essaient de l'enlever, puis il reste la tête est là, il faut l'enlever. Fait qu'on a des. On a des outils en clinique là, pour réussir ou à l'urgence. On a des outils pour enlever la tique de la bonne façon. Fait que ça vaut la peine de consulter si vous n'êtes pas capable de l'enlever ou si vous avez peur que la tique reste là. Puis si jamais ça vient rouge, ça l'augmente, la personne fait de la température, elle a mal, il faut consulter. Il faut vraiment consulter.
Puis il y a un de nos chroniqueurs qui avait mentionné ça à un moment donné. Je pense que j'étais en vacances à ce moment-là concernant les tiques qui disait qu'on peut se mettre de l'insecticide sur les jambes avant de rentrer dans le bois. C'est-tu quelque chose qui peut les repousser, ça, les tiques?
Bien, en fait, les insecticides, c'est bon pour les petits, genre les maringouins et autres. Je n'ai pas la donnée si ça va vraiment éloigner la tique, parce que dans le fond, c'est surtout quand tu passes dans les herbes, elle va finir par s'accrocher à toi. Fait okay. Je ne suis pas tant convaincue qu'elle risque moins de s'accrocher. Il faudrait que je vérifie la donnée. Mais je dirais plus que si tu marches là, le mieux, c'est de mettre, mettons, des pantalons longs ou faire attention où tu te couches, des herbes hautes. Puis de vérifier après, je pense que ça va être plus utile que juste mettre l'insecticide.
Vérifier vos animaux aussi, hein?
Oui, en dessous du pelage.
Effectivement.
Oh, oui, puis on nous demande aussi par texto, c'est-tu vrai, les headsets, des fois, ils peuvent s'accrocher là, parce qu'on parle de forêt, les herbes hautes et tout ça, parce que ma blonde, des fois, elle a aussi avec les enfants. Attends, vérifie s'ils ont des tiques, ils ont fouillé des headsets. C'est-tu quelque chose qui peut se cacher là-dedans?
J'ai pas la donnée pour la tienne. Pour vrai, j'oserais pas m'avancer là-dessus parce que j'ai pas la donnée. Il faudrait que je la vérifie. Je la vérifierai puis tu retireras à tes auditeurs tantôt.
Ah oui, parfait, parfait. Puis maladie de Lyme, ben j'imagine que tu veux pas être pogné avec ça. Parle-nous un peu de cette maladie-là, Julie.
Non, c'est ça. En fait, c'est une bactérie qui peut rendre malade les gens. Fait que c'est sûr que, vu que c'est une bactérie, la bonne nouvelle, c'est que si on la traite rapidement, ben la personne, elle aura plus les symptômes. Mais souvent, c'est que ça peut donner, si elle n'est pas traitée, cette maladie-là, ça peut donner des douleurs aux articulations, ça peut donner des problèmes de paralysie faciale, etc. Là. Mais c'est surtout que, puis les premiers jours, la personne peut être fatiguée beaucoup, douleurs musculaires, etc. Fait qu'on aime mieux pas aller là. Fait que on va traiter le plus vite possible dès qu'on sait qu'il y en a une. Si c'est plus longtemps que 24 heures, on va l'enlever et on va donner des antibiotiques pour prévenir ça.
Ça peut vraiment créer même des problèmes neurologiques graves. Puis si je ne me trompe, ça fait pas si longtemps qu'au Québec, on est en mesure de bien diagnostiquer cette maladie-là, hein?
Ben ça fait quand même que là ça fait quand on a un recul un peu plus long. Je sais plus ça fait combien d'années exactement, mais on est beaucoup plus proactif, on a plus de connaissances qu'avant, on a des algorithmes nous quand on pour traiter, puis on peut faire analyser la tique aussi quand on l'enlève. Fait que on est quand même vraiment mieux organisé que si on recule il y a. Quand j'ai commencé ma pratique comme IPS, on ne parlait pas bien de ça.
Non, il y a 15 ans. Moi, je me rappelle, en tout cas, 2014, ouais, j'en ai eu là, sur la cheville. Ouais. Finalement, j'ai réussi à l'enlever, mais on n'était pas trop au courant, tout ça. Après ça, Avril Lavigne a été atteinte, la maladie de Lyme. Ça a été vraiment...
À cause d'une tique, ça?
Oui, ça a été super difficile pour elle. Ça a été long avant d'être diagnostiquée, puis là, elle se remet tranquillement. Heureusement, on la revoit maintenant sur scène, mais c'est quelque chose.
Ça va avoir des effets néfastes sur le long terme.
Oui. Bien, c'est sûr qu'on a plus de données aujourd'hui. Fait qu'on est beaucoup plus proactif. On a plus de données. Puis quand on a un doute sur la durée, bien, souvent, on va traiter avec l'antibiotique pour être sûr de ne pas avoir de séquelles à long terme. Là. Mais c'est sûr que si on recule, les gens, probablement qu'il y en a qui vont dire qu'ils ont été atteints, puis ça a été long, parce que si on recule, il y a 10, 12, tu sais, on avait vraiment moins de données à cette époque-là. Là.
Hey, je veux t'entendre maintenant, Julie, sur la fameuse crème solaire. La discussion revient année après année. Nous autres, on prend ça au sérieux avec les enfants, puis on se crème, on va prendre une marche, on se crème aussi. Puis je connais quelqu'un qui a besoin de faire attention au soleil présentement, donc se crème davantage. Mais j'ai 2-3 chums dans mon entourage, pas besoin de se crémer.
Mais
t'as pas besoin de faire ça.
À cause de la crème, ben, je pogne des coups de soleil.
Ouais, c'est ça, mais il y a tellement de monde dans mon entourage. Je pense que c'est genre au moins 60%, ben, peut-être kiff-kiff, là, mais qu'il y en a qui se crèment pas pantoute en disant c'est de la foutaise, ça sert à rien.
Mais oui, mais moi, je vois même des campagnes de salissage envers les crèmes solaires. Ça dit que ça donne le cancer.
C'est vrai.
Fou, là. Ouais, qu'est-ce qu'on fait avec
ça? Il y a beaucoup d'informations qui se transmettent sur les réseaux sociaux qui ne sont pas toujours vrais. Puis même, il y a une mode, là, les jeunes, là, ils se font griller, là, puis ils veulent avoir des traces de bretelles, là. Puis c'est vraiment pas bon. Là, on n'encourage pas ça du tout, du tout. En fait, il faut savoir que les rayons UV vont traverser les nuages, à peu près 80 % des rayons UV. Puis il faut vraiment mettre la crème solaire. Puis on va faire la différence entre les deux parce que des fois, les gens n'aiment pas ça, mettre de la crème solaire parce qu'ils trouvent que ça tache sur la peau. Là.
Ça tache les chandails aussi.
Ben, oui, c'est ça, quand ils ne l'appliquent pas puis ils trouvent ça bien tannant. Là. C'est vrai que c'est plate, mais il faut en mettre. Une des premières choses qu'il faut regarder, ben, en fait, c'est pour prévenir le cancer de la peau et d'un, et le vieillissement prématuré de la peau parce que c'est sûr que quand tu as 20 ans, ta peau est tout belle, tu n'as pas de rien, de rien, mais quand tu vas être rendu à 50 ans, si tu n'as jamais mis de crème solaire, ta peau va être plus ridée. Là.
Ouais, puis parlez-en, on avait reçu un auditeur, je me souviens pas, mais avec Diège qui avait été pendant je sais pas combien d'années à Acapulco, puis lui, jamais de crème, tout allait bien, puis il nous racontait, là, il devait être dans la soixantaine, qu'il se faisait arracher des bouts de nez et des bouts de peau en raison du cancer de la peau qui avait pris l'expansion sur son corps. Là.
Ouais, ben c'est ça parce qu'il y a le cancer de la peau, le mélanome que tu sais que les gens fait plus peur là, tu sais qui peut donner des métastases et tout, mais tu as quand même les spinocellulaires ou les basocellulaires que les gens ont peut-être déjà entendu, c'est moins invasif puis normalement tu meurs pas de ça, mais ça va enlever des morceaux. Fait que tu perds un bout de nez, un bout d'oreille parce que ça te déforme. Fait que ça c'est bien tannant puis il faut les enlever là, pas tous, mais il y en a qu'on peut traiter plus tôt, mais il faut faire attention. Fait que ça pour dire qu'il faut mettre la crème solaire. Là, la première question qui vient souvent, c'est quel SPF? Le SPF, qui est le facteur de protection solaire. Tu sais, les gens voient 15, 30, 50, des fois, puis ils disent, je vais prendre juste le plus haut. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand un SPF 30, là, ça bloque à peu près 97 % des rayons UV, fait que UVB, là, qui sont quand même, c'est quand même un bon pourcentage. Quand tu tombes, mettons, à 50, ça bloque à peu près 98. Fait qu'on s'entend que le minimum d'SPF, puis mettons, vous avez un 15, là, 15, là, les gens devraient moins acheter ça parce que ça bloque à peu près 93 % des rayons. Okay. Fait qu'on s'entend qu'à 30, c'est plus intéressant. Il n'y a pas une grosse différence entre 30, 50 ou 60. Là, des fois, vous voyez, ça bloque pas tant plus que ça. Mais fait que souvent, les gens vont choisir, ça prend au moins un SPF 30 ou plus. Les personnes plus à risque, les personnes à peau pâle, les enfants, les gens qui ont des antécédents de cancer de peau, les gens qui sont à l'extérieur longtemps, bien, ils devraient mettre de la crème solaire, c'est clair. Il existe comme deux grandes catégories. Il y a la catégorie écran solaire minéral, puis il y a l'écran solaire chimique. Les gens aiment mieux le chimique parce qu'il s'étend mieux sur la peau. Il est souvent plus invisible sur la peau quand on le met. Le minéral, les gens vont dire, il reste comme un petit blanc là, sur la peau. Là.
Okay.
Mais souvent, il est plus intéressant pour les enfants. On ne met pas de crème solaire chez les enfants en bas de 6 mois. Normalement, on attend 6 mois. C'est plus facile chez les. C'est plus intéressant parce qu'il y a moins de produits chimiques à l'intérieur, ce qui fait que les gens sont moins irrités. Les gens qui ont des peaux fragiles, qui font de l'eczéma, souvent sont moins irrités avec l'écran solaire minéral parce que dedans, il y a de l'oxyde de zinc, il y a des choses dedans qui sont moins irritants, puis ça l'agit tout de suite. Fait que ça, c'est intéressant parce que ça l'agit tout de suite, le minéral, dès qu'on le met. L'écran solaire chimique, bien, ça prend à peu près 15 à 30 minutes qu'il faut le mettre avant l'exposition pour que ça soit efficace. Fait que si la personne a un écran solaire chimique puis elle met sa crème puis elle s'en va dans l'eau se baigner tout de suite, ça ne fonctionnera pas, ça ne protégera pas.
Ouais, c'est ça, ça sert à rien.
Puis quand on dit résistant à l'eau, ça ne veut pas dire que c'est imperméable puis ça ne protège pas toute la journée non plus, même si la personne se baigne. On dit que c'est bon à peu près entre 40 et 80 minutes. Fait qu'il faut que les gens, il faut qu'ils en remettent après la baignade. Puis normalement, on va dire d'en mettre à peu près aux 2 heures de la crème, particulièrement après s'être baigné ou après avoir transpiré beaucoup ou après s'être essuyé avec une serviette. Puis les gens se demandent souvent combien il faut en mettre. C'est à peu près je dis à mes patients souvent à peu près un shooter, là, un verre de shooter. Tu sais, c'est à peu près 30 millilitres, un shooter. Puis ça devrait couvrir pas mal le corps avec un shooter à peu près. Fait que ceux qui mettent juste une petite poignée dans leurs mains, c'est pas assez. Puis ceux qui prennent en vaporisation, là, tu sais, les écrans en spray, là, il faut faire attention parce qu'il y a une grande quantité qui part dans le vent. Fait que il faut s'assurer d'en mettre assez épais puis de bien l'étendre, sinon ça servira à rien non plus. Il y a d'autres choses qu'on peut se protéger, là. Tu sais, il y a des chapeaux à large bord, il y a des lunettes solaires, il y a des vêtements légers à manches longues, là, tu sais, particulièrement chez les enfants, là. Puis entre 11h et 15h, le soleil, les rayons UV sont toujours plus intenses. Il faut faire attention, mais ça donne quand même une idée. Mais faut se protéger, ça, c'est clair. Les gens, quand ils n'ont pas de cancer de peau puis qu'ils n'ont pas de problème, souvent, ils ne voient pas que ça peut avoir sais que ça peut avoir un impact, mais la journée où ça va toucher un de vos proches ou que ça va vous toucher vous-même, vous allez faire « j'aurais dû en mettre de la crème solaire ».
Puis tu parlais de mélanome tantôt, puis je regarde les schémas là, quand ils sont plus foncés, puis tout ça, le diamètre, faut surveiller ça quand même. Puis il y a un auditeur qui nous envoie également des taches blanches sur la peau, ça, faut-tu…
C'est sûr que c'est dur à dire quand on est à la radio, là, mais c'est généralement quand il y a une dépigmentation de la peau, il y a deux choses. Il y a comme deux catégories. Là, on s'entend que je donne des conseils généraux, là, pas perso, puis il faut aller consulter si on a besoin. Mais j'entendais Mélanie qui disait le vitiligo, effectivement, ça, c'est une dépigmentation de la peau. Là, fait que les gens, souvent, sont connus, puis l'été, ça apparaît plus parce que le reste de la peau, qui, je vais dire qu'il n'y a pas ce problème-là, la peau vient plus foncée parce qu'on bronze l'été, puis le vitiligo va ressortir plus. C'est vraiment une dépigmentation, la peau est comme blanche. Il y a aussi des champignons au niveau de la peau, du pityrasis particulièrement, qu'on appelle, qui est des champignons. Les gens qui ont une sudation importante, ils peuvent avoir cette dépigmentation-là. Fait que ça ressemble un peu à du vitiligo, mais souvent, les gens vont en avoir au niveau du thorax, dans le dos, les endroits où il y a plus de sueur. Puis il y a des traitements là, pour traiter le pityrasis ou ces champignons-là là, sur la peau quand il y a une dépigmentation, qui est complètement différent du mélanome là, que tu disais que tu regardais. Là, effectivement, quand on a une tache qui détonne des autres sur le corps, qui a une asymétrie de la forme, tu sais, c'est pas un bel ovule comme un beau rond comme mettons un névus là, ou un grain de beauté là, qu'on connaît, qu'on a toujours eu. S'il y a une couleur noir-brun foncé, la bordure est irrégulière, ça l'a grossi. Tu parlais de diamètre, si c'est plus gros que 6 mm, puis ça l'a changé avec le temps, bien normalement, on recommande d'aller consulter. Là.
Vous avez entendu, crèmez-vous. C'est important de se crémer.
Oui.
Julie Poirier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Super le fun. On refait ça dans deux semaines.
Ça fait plaisir.
Salut, good, bye-bye. Salut, ciao. C'était Julie Poirier, qui est infirmière praticienne spécialisée, travaille au GMF du côté de Saint-Étienne. Toujours bien des questions. Là, on avait une coupe par texto concernant les mélanomes et tout ça. Puis on a même des belles photos de mains, de grains de beauté. On va continuer ça avec Julie peut-être dans deux semaines avec elle au courant de l'été. Vous écoutez le retour de Radio X avec Jordan, Mel et Louis. Bougez pas parce qu'au retour, on parle de char avec Carbo. Yes, sir!
Ce segment d'émission présenté par Limaco, qui a une cour à bois pleine de cèdres pour tes projets de pergola, patio, clôture et plus. Tu veux un matériau solide qui va durer dans le temps? Pense aux cèdres de chez Limaco.ca. Le retour de Radio X.
Radio.